Bonsoir à toutes et à tous, et bien toute l'équipe de Par les temps qui courent et moi-même. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une troisième saison de ces grands entretiens ce soir. On ouvre avec Patrick Deville.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent.
Marie Richeux avec Patrick Deville.
C'est par un grand fleuve puissant que nous voulions ouvrir cette nouvelle saison d'entretien, un fleuve qui traverse plusieurs pays et donne son nom à cette grande forêt tropicale, parce qu'Amazonia est le titre de votre dernier roman, Patrick Deville, et c'est comme cela que nous voulions commencer. Ce fleuve puissant, qui est aussi dans votre texte celui qui relie les pères et les fils depuis la nuit des temps, et qui relie encore ceux qui écrivent à ceux qui lisent. C'était avant que les si nombreux incendies ne mettent le lit de l'Amazone et ses hectares de forêt en feu au premier rang d'une triste actualité. Amazonia est un texte hybride qui rejoint nombreux de vos textes précédents par leur manière de se rendre attentif, de questionner l'humanisme ou ce qu'il en reste. Un livre où vous consignez des vies dans vos carnets pendant que votre propre fils remplit mystérieusement les siens, où une cabine de bateau se trouve être la meilleure bibliothèque qu'il soit et un bon point d'ancrage pour inscrire deux vies côte à côte au milieu du maelstrom des autres. C'est un livre, enfin, où à regarder le visage de Pierre, votre fils, donc vous trouvez une minute au moins, une bonne raison d'être vivant. C'est donc une bonne raison de commencer avec vous. Bonsoir Patrick Deville.
Merci, bonsoir.
Amazonia est paru aux éditions du Seuil. Pour moi, c'était difficile de commencer cet entretien sans vous demander la manière dont vous accueillez les tristes nouvelles des incendies qui font la une des journaux quotidiens aujourd'hui en France.
Oui, c'est un peu un hasard. Évidemment, on ne peut que les déplorer. La parution du livre, je l'espère, n'y est pour rien. Mais en même temps, c'est toujours aussi un peu la folie de l'information. Enfin, ce sont ces informations qui passent, qui font la une pendant un moment, qu'on oublie. La situation, vraisemblablement à empirer. Enfin, dans le livre, c'est encore, au moment du Brésil, c'est encore la campagne présidentielle. Et il y avait des manifestations populaires à Manaus pour rappeler au coup d'État que les Indiens voyaient à peu près bien ce qui allait se passer si Bolsonaro était élu. Malheureusement, ça n'est pas quelque chose qui vient spontanément et de rien. Enfin, il y a aussi les Galapagos, et là, il n'y a pas de responsabilité de Bolsonaro. Enfin, la catastrophe écologique sur la planète empire. Oui.
Vous voyez ça comme une sorte de mise en lumière de quelque chose qui, en réalité, court, sourd, et qui est présent dans Amazonia, dans votre texte?
Oui, peut-être davantage, enfin, je sais pas. Je ne sais pas, lorsque j'avais écrit sur l'Afrique, il y avait également ce problème de la déforestation et tout cela, mais dans le livre, en effet, j'ai été moins attentif, mais tout simplement aussi parce que je vis dans cette époque, quoi, que ce projet littéraire l'a entamé depuis 22 ans, et que, ainsi que je le mentionne, je m'aperçois que finalement, par-delà toutes les vicissitudes politiques, économiques, cette catastrophe est réellement le sujet majeur. Enfin, ce n'est pas. Enfin, c'est un tel truisme aujourd'hui de le rappeler.
Peut-être vous voulez bien nous dire quelques mots sur ce projet littéraire entamé depuis 22 ans. Pour moi, c'est presque réducteur de considérer qu'il s'agit uniquement d'un projet littéraire, tant il semble embrasser un mode presque de vie, Patrick Deville.
Oui, néanmoins, c'est tout de même
un projet littéraire.
C'est tout de même un projet littéraire, puisque c'est un vaste et long projet, entamé donc il y a 22 ans, le projet d'écrire 12 romans sans fiction, effectuant deux fois le tour du monde, dans une chronologie qui part de cette année fatidique que j'avais choisie, l'année 1860 jusqu'à aujourd'hui, et puis dans une progression géographique inébranlable. C'est-à-dire que là, après ce demi-tour qui était ce tour de France de Tabataba, Amazonia est le début d'un deuxième tour du monde, mais cette fois de l'est vers l'ouest. Et donc géographiquement, la de Belém sur l'Atlantique au Galapagos dans le Pacifique. Et il s'agit tout de même réellement d'un projet littéraire en jouant sur beaucoup de genres littéraires différents que je rassemble sous ce terme de roman, parce qu'il n'y en a pas d'autres, même si c'est sans fiction, mais évidemment pas sans invention.
Ça veut dire que vous y tenez, si vous rassemblez sous ce terme-là de roman. Il n'y en a pas d'autres, il pourrait y en avoir d'autres, en fait, si vous tient à cœur.
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, non, ça, c'est réellement une décision. Il y a une... Non, il n'y a pas de définition positive du roman. Sauf peut-être au tout début, 12e, 13e, écriture en langue romane, etc. Mais depuis, le roman est ce qui n'est pas autre chose. C'est toujours une définition négative. Le roman, c'est ce qui n'est pas de l'essai, ce qui n'est pas du récit, ce qui n'est pas de l'autobiographie, ce qui n'est pas du reportage, ce qui n'est pas du récit de voyage, etc. Et ce qui m'enthousiasme le plus à l'écriture de ces livres, c'est de pouvoir jouer de tout cet éventail, de pouvoir d'un chapitre à l'autre passer d'un genre littéraire à un autre. Et le seul terme qui puisse rassembler tout cela, c'est le terme de roman.
En même temps, vous l'amendez en lui rajoutant le science-fiction. Ça veut dire quand même que le roman vous aurait emmené, sans cet amendement, vers un territoire qui n'est pas exactement celui de votre projet.
En effet. Mais il y a une histoire des genres littéraires, il y a aussi une géographie des genres littéraires. Et... Parce que les genres littéraires sont, heureusement, à la différence de beaucoup de choses, la littérature n'est pas encore absolument mondialisée. Et il y a des romans faits au moule, enfin un peu partout sur la planète, qui souvent n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais par contre demeurent des littératures géographiquement ancrées et dans une histoire littéraire. Et dans la nouvelle, par exemple, qui était un genre majeur, qui ne l'est plus dans la littérature française, ça n'est pas exactement el cuento en Amérique latine, ça n'est pas exactement short story. Il y a une géographie également des genres littéraires, et puis il y a une histoire. Et donc la définition du roman n'est pas... Alors évidemment, pour simplifier, donc il y a encore pour beaucoup de lecteurs l'image du roman de fiction, comme si roman de fiction était un pléonasme et roman sans fiction un oxymore, mais c'est en se référant de manière assez classique au grand siècle du roman russe et français du 19e. Mais il y a une histoire du roman. Et donc aujourd'hui, je crois que ça n'est ni d'un côté un pléonasme, ni de l'autre un oxymore.
Alors peut-être on viendra plus en détail sur la manière dont votre livre Amazonia se compose, peut-être en revenant justement sur la diversité des matériaux, mais aussi des genres auxquels vous empruntez, Patrick Deville. Mais puisqu'on réinscrit Amazonia dans ce grand projet littéraire, est-ce que vous voulez bien nous dire un mot de ce A qui termine les titres ?
J'ai choisi comme un titre générique pour cette vaste entreprise que j'espère achever un jour. Donc il reste 5 livres sur lesquels je travaille, qui sont encore un peu comme des trains qui progressivement sortent de la brume et s'approchent de moi, mais je travaille évidemment sur les 5 suivants.
En même temps.
En même temps, oui.
Bien sûr.
Mais enfin, le prochain est un peu plus net, puisqu'un peu moins loin. Et donc j'ai choisi comme titre générique pour cette petite entreprise littéraire le titre d'Abracadabra, qui est un mot qui contient pas mal de A. Avec ce souvenir du premier livre qu'enfant j'ai lu seul, Le tapis volant, dans lequel un enfant de mon âge, à l'époque, le petit Michel, bénéficiait de ce privilège immense d'être dans sa chambre et d'avoir un tapis sur lequel il pouvait s'asseoir, tapis représentant un planisphère, et prononcer cette formule magique abracadabra et se retrouver sur le lieu du tapis, c'est-à-dire un chapitre sur la Floride, assez rimbaldien d'ailleurs, parce que j'ai découvert bien après le bateau ivre. Et puis la page suivante en Perse, une vision évidemment très occidentale, hein, c'est un livre pour enfants du début des années 60 avec une vision archétypale, enfin la Perse avec des minarets, des tapis, des
turbans.
Exactement. Et donc j'ai c'est ce souvenir qui me donne ce titre d'abracadabra, qui est tout de même aussi, enfin, me semble-t-il, une bonne manière de voir ces livres, dont le véritable sujet est l'étonnement magique d'être vivant. Voilà.
Sauf que c'est peut-être la première fois qu'il est aussi clairement énoncé à la fin de ce livre
amazonien. Oui, alors là, on va pas entrer dans des détails éditoriaux, mais tout de même, c'est important. Bon, d'abord, puisque c'est bien plus de 20 ans que j'ai commencé ce projet, je crois que si à l'époque j'avais annoncé cela, on m'aurait passé une camisole, quoi. Enfin, renvoyé à mon enfance dans un hôpital psychiatrique. Maintenant, j'ai un peu moins peur de vendre des peaux d'ours, parce que tout de même, j'ai franchi la moitié de ce projet, que les autres sont bien engagés. Donc je pense pouvoir le dire. Et puis finalement, il y a tellement de « ah » dans « abracadabra », de ce projet abracadabrantesque, on va prendre non pas Chirac mais Rimbaud, et que finalement, voilà, pour le dire un peu, j'avais choisi, enfin, c'est pas difficile, hein, ça n'est pas péréquin, trouver des titres en « ra », c'est assez simple en français.
Pour Avida, Kampuchea.
Voilà.
Peste Cholera aussi, c'est
oui,
le A.
Oui,
c'est...
Oui, oui.
On va commencer, il y a beaucoup de monde dans ce livre-là. Il y a vous deux, vous et votre fils, puis il y a une foule, et parmi lesquels Blaise Sandrars.
Je voulais absolument publier le meilleur livre sur l'Amazonie. Et le meilleur livre sur l'Amazonie est un tout petit livre de 112 pages, rédigé par un jeune commandant de cargo qui avait fait des bêtises et qui s'était réfugié en Amazonie. Et qui, durant 10-12 ans, a fait cet atroce voyage de Para à Iquitos, tous les ans, qui connaissait l'Amazonie sur le bout du doigt, mais qui n'était pas écrivain et qui a rédigé son livre sur l'Amazonie dans un langage tellement local que les termes qu'il emploie sont sans équivalent dans aucune langue du monde, ce qui était une difficulté de plus. Et un attrait de plus pour le traduire, mais réellement j'y ai renoncé parce que j'aurais dû accompagner presque chaque mot de 2-3 pages d'explication. Parler de la flore, de la faune, des vents, des rats de marée, des fourmis, des mouches, de tout. Alors les autres livres, plus ou moins romancés, genre Pierre Benoît par exemple, n'étaient pas complets. Et c'est un ami brésilien qui m'a signalé le livre de Ferreira de Castro, que j'ai traduit avec beaucoup de joie, parce qu'il est beau,
c'est
complet.
Il
y a des échappées, il y a un historique, il n'est pas ennuyeux. Et je l'ai fait avec beaucoup de joie, d'ailleurs c'est un bouquin qui a eu beaucoup de succès.
Ça doit être un port où il y a pas mal de bateaux quand même, un peu d'agitation, pas exactement les endroits où votre bateau à vous, pour ce projet Amazonia, s'endormait. Patrick Deville, est-ce que vous voudriez bien nous dire, après la voix de Blaise Sandrars en 1950, avant qu'on parle de lui et de la spécificité de sa présence, à quoi il ressemble ce bateau sur lequel vous naviguez pendant Amazonia ?
Il n'y en a pas un seul. Hein. Il y a sur l'Amazonie brésilienne ce ce navire que je rebaptise la Jean Gadin en hommage à Jules Verne, mais qui ne s'appelait pas la Jean Gadin. Et puis ensuite, il y en a d'autres. Mais enfin, celui-là était le plus agréable. Et d'abord parce qu'il était en bois. Et puis ces navires ont une forme, enfin, qui de moins en moins est respectée dans la construction fluviale amazonienne. Ces navires amazoniens, mais un peu comme on les voit dans le film de Werner Herzog, qui sont des bateaux évidemment de peu de quilles évidemment, et par contre très verticaux, très haut sur l'eau, et avec une proue levée. Et là encore, heureusement, il y a des formes de navires qui ne sont pas les mêmes lorsqu'on navigue sur le Congo, sur le Mékong ou sur l'Amazone. Mais l'un des plus grands, parce que tout cela tout de même aussi, sinon ne le ferait pas, c'est une histoire de plaisir, pas seulement égoïste, je l'espère, mais enfin tout de même de grand plaisir égoïste, et d'être de toute façon sur quelque chose qui flotte, je me sens toujours mieux. Mais que ce soit une barcasse, un navire ou un sampan ou une pirogue, et puis ça a à voir aussi avec la lenteur.
Vous faites pas partie des malheureux et des malheureuses qui ont mal de mer au moindre tout le tangage.
Monde pas connaissance d'un seul navigateur.
Ah oui, il y a justice en la matière.
Il n'y a pas un seul navigateur qui un jour n'ait eu le mal de mer, au pire moment généralement.
À quoi ressemble la journée, votre journée, qui sont parfois décrites par petits bouts dans Amazonia, sur ce fleuve? À quoi est-ce que ça ressemble? Comment est-ce que vous le vivez?
De manière très lente et très paisible, avec de la lecture, de l'écriture, des conversations avec Pierre, ainsi que c'est mentionné, parfois des éclats de rire, parfois un peu de friction, et puis des nuits à bord, mais également des mouillages et des... Parce que heureusement, il y a des navigations sur des affluents, parce que l'Amazone elle-même est tout de même là, Sandras parlait du Pará, c'est-à-dire en aval de Santarém, est extrêmement large, c'est immense, et que les navires de ligne et les bateaux cargo, en fait, en restant au milieu du lit du fleuve, on ne voit quasiment pas les berges, et que c'est un autre genre d'ennui. Mais l'intérêt, c'est aussi de remonter les affluents, le Tapajós au Brésil, le Ucayali et le Marañón au Pérou, où là, effectivement, le lit progressivement se resserre, la forêt est proche, donc les arbres, les animaux, la vie, et donc du paysage à admirer, à contempler. Et quand on aime ça, c'est un peu le moyen magique de concilier le retrait du bureau, enfin de la chambre pascalienne et de la bibliothèque, et puis du paysage qui défile, et donc d'histoires qu'on peut inventer, puisqu'il se passe toujours quelque chose quand même sur les rives.
Et pourtant, vous parlez d'ennui, c'est un ennui que vous aimez aussi, Patrick Deville?
Oui, bien sûr. Non, c'est un privilège, l'ennui. Hein. À Paris aussi, enfin partout, le bel ennui.
Mais alors c'est quoi exactement? Parce que quand il est beau, moi j'ai toujours du mal à imaginer qu'est-ce que ça peut être de s'ennuyer et d'être bien. Parce que la langueur, la lenteur, je vois bien, mais l'ennui...
Oui, mais c'est le contraire du divertissement, pour en revenir à Pascal.
À la langue.
Et oui, bien sûr, de se divertir avec des âneries, enfin je ne sais pas. Mais ma vie parisienne n'est pas si différente. Enfin, j'ai jamais possédé de téléviseur, je n'écoute pas la radio.
Il n'y a pas de problème, vous pourriez très bien le prononcer.
Non, mais bien sûr,
micro,
j'écoute France Culture, mais jamais en direct d'ailleurs. Et c'est lié à la nuit d'ailleurs, Non, c'est vrai. Ça, dans les projets, les progrès technologiques, il y a cela qui est magnifique de pouvoir capter des émissions et de les écouter la nuit. Mais donc cette...
Une vie non divertie.
Voilà, c'est ça, oui. Oui, oui, et la lecture et l'écriture. On ne pense pas que c'est un tel... Oui, c'est un tel privilège, enfin, de pouvoir se retirer du grand bazar.
Alors, on va en revenir à cette voix qu'on vient d'entendre. Je disais que pour moi, Blaise Cendrars, il a une présence particulière dans ce texte-là, Amazonia. Est-ce que vous diriez qu'il a une présence parmi les autres, mais pas plus singulière?
Il y a dans ses livres toute une bande de personnages, parmi lesquels des écrivains. Il y a des aventuriers, des savants qui reviennent de Liban.
Vous parliez d'Herzog.
Voilà. Mais il y a aussi toute une petite bande d'écrivains que je traîne après moi, parmi lesquels Cendrars, qui apparaît déjà dans d'autres, même dans le premier Paulavida sur l'Amérique centrale, et qui était assez présent dans le français Tabataba. Pour des raisons personnelles, parce que mon père m'avait quasiment obligé, enfin, une forte injonction paternelle lorsque j'étais enfant, de lire Moravagine, qui n'était pas du tout une lecture pour le très jeune garçon que j'étais. Et donc, je suis coutumier de la lecture et de la fréquentation de Cendrars. Et bien évidemment, c'est-à-dire qu'Amazonia commence avec Cendrars, avec le propre père de Cendrars, son histoire, tragique avec son fils aussi, puisque son fils Rémi, l'aviateur, pour lequel il rêvait de fortune brésilienne. Donc oui, il est assez présent, enfin il est présent jusqu'à Manaus, puisque Moravagine quitte Manaus pour descendre l'Amazone vers l'Atlantique. Et bon, c'est un gros... C'est un grand roublard, Cendrars, j'aime beaucoup. C'est intéressant, je l'entendais parler là de la végétation, par exemple. C'est-à-dire qu'il connaît mieux, il a tout de même fait pas mal de séjours de 1924 à 28. Il a dû faire trois séjours assez longs tout de même au Brésil. Et en fait, c'est à ce moment-là que... Dans sa carrière, il arrête la poésie parce qu'il est dépassé après la Première Guerre mondiale. Enfin, il est dépassé par le dadaïsme, le surréalisme. Et donc, il se met au roman. Et dans L'Or, qui est son premier immense succès romanesque, enfin, sur la vie de cet homme, et qui donc est supposé se passer beaucoup plus au nord, donc dans une végétation qu'il ne connaît pas, en fait la végétation est beaucoup plus brésilienne qu'elle ne devrait être dans le livre. Alors oui, il est assez présent. Il est présent aussi parce que justement là, j'entendais il parle longuement d'un livre magnifique, etc., de 112 pages, c'est extrêmement précis en fait, dont personne ne connaît l'existence et que finalement je n'ai pas traduit, etc. Et sans donner ni le titre ni le nom de l'auteur, enfin tout ça, ce sont les histoires rêvées de Cendrars. Et donc il y a celle de ce bandit brésilien que je reprends, Lempião. Lampion, que Cendrars essaiera d'écrire pendant très très longtemps, puisque tout à la fin, encore après cela, quoi, puisqu'en 53, il écrit encore. Enfin, c'est l'habitude de Cendrars aussi de signer énormément de contrats pour récupérer de la fraîche et de ne pas écrire les livres. Mais donc, il promet encore en 53 qu'il va écrire La vie de Lampion, ce que finalement, il ne fera jamais.
Vous soulignez le désir des fortunes brésiliennes en souriant et... Plein de fois dans le livre, on se dit, est-ce que c'est un chaos organisé? Est-ce que c'est une attention aux concordances des dates, aux croisements, des endroits où les vies se croisent et où ça colle parfaitement, des géographies où les choses se passent et où ça colle parfaitement aussi? Comme si vous étiez très très attentif aux signes, Patrick Deville.
Oui, oui, absolument. Aux éphémérides, aux coïncidences de lieux, de dates. Et ces livres sont ainsi construits, parce qu'en fait, bon, cette histoire, vous le rappeliez, de sans-fiction, enfin c'est très réducteur, mais peu importe, ça veut dire que les dates, les événements, les personnages, tout cela, c'est réel et vérifiable. Mais que l'invention, évidemment, vient après, et l'invention d'une forme, enfin la littérature, c'est aussi principalement d'inventer des formes, enfin comme en peinture, en musique, et que l'invention de ces formes, elle vient souvent de ces coïncidences, de cette difficulté très grande d'ailleurs à faire entrer la géographie dans l'histoire, et l'histoire dans la géographie. Au moment où j'en arrive, après des années, à les construire, ces livres, parfois c'est la géographie qui commande, parfois c'est l'histoire. Je voudrais bien que tout demeure chronologique, ce qui est impossible par rapport à... Et donc, enfin, j'avais ce même... Enfin, problème, j'ai pas appelé ça un problème, c'est magnifique, ces difficultés de construction, avec Equatoria, qui était dans l'autre sens, une traversée de l'Afrique, de l'Atlantique à l'Indien, de Sao Tomé et Principe à Zanzibar, où je voulais là encore reprendre sur plusieurs siècles toutes ces histoires, mais tout en conservant une progression géographique. Et donc, le jeu consiste à parvenir à concilier tout ça, de telle manière que, tout de même, à la lecture, cela puisse glisser comme un navire sur le fleuve. Quoi.
Quel est le rôle des titres, justement, dans cette construction dont on sent bien que c'est peut-être pas un problème, mais c'est quand même un défi. C'est-à-dire que si tous vos bouquins, Patrick Deville, sont des trains qui sortent progressivement de la brume, ou des tunnels, ou de la campagne lointaine, et qui s'approchent progressivement de vous, et puis de nous, lectrices et lecteurs, ça veut dire que ce sont aussi des manières d'être attentifs à certaines choses, à certaines vies, pendant de longues années, et qu'à un moment donné, ça se cristallise, quoi. Ça s'organise comment? Ça s'organise comme une map-monde, comme une carte du ciel, et quel rôle dans cette organisation tiennent ces titres, qui sont des courtes phrases, toujours commencées par des minuscules.
Les titres de chapitres. Ah oui. Alors, ça vient au moment de l'invention de la construction, le choix de ces brefs titres, que je vois un peu comme des respirations, parce que c'est ce qui me permet, je l'espère, de pouvoir justement, d'un chapitre à l'autre, passer d'un genre littéraire à un autre, et qui serait peut-être davantage brutal s'il n'y avait pas cette petite parenthèse du titre en grâce en majuscule, qui est une petite marche entre les chapitres. Mais ça vient évidemment au moment de la construction du livre à écrire. Pas au moment du travail de préparation, je l'ignore au moment de la préparation. La préparation, c'est-à-dire pendant des années, c'est un grand fatras de carnets, de notes de lecture, de notes sur place, parce que, évidemment, je souhaite que cela dure longtemps, l'Amazonia. Je ne débarque pas au Brésil. Enfin, il y a 15 ans que je vais régulièrement au Brésil, que j'ai suivi et que je suis devenu assez proche de la Revolution Ciudadana en Équateur, que j'ai rencontré les acteurs de cette révolution, etc. Mais tout en sachant qu'un jour, tout cela était destiné à faire un livre.
Ça veut dire que vous perdez jamais vos carnets? Vous avez un bon ordinateur portable.
Je touche du... c'est une angoisse permanente, ces histoires de carnets, en effet. Oui. Oui, bien sûr, parce que dans un carnet que je peux continuer à remplir demain, il y a des phrases ou des idées qui sont destinées au livre suivant, mais également sur la même page, quelque chose qui est destiné à un livre dans les années futures, mais puisque je dispose du plan et des titres de ces livres, le
reste s'agrège, quoi, petit à petit.
Oui, absolument. Et c'est pour ça qu'évidemment, du point de vue de la parution, c'est plus rapide maintenant, enfin aussi pour des raisons biologiques, parce que j'aimerais parvenir à finir cet ensemble de livres.
On dit longue vie à vous, dans ces cas-là.
Et voilà. Mais c'est aussi le fait que il y a quelque chose dans, comment, il y a dans ces livres, et c'est destiné à ne pas trop être repéré à la lecture, à ne pas l'arrêter ou la rendre trop énigmatique, mais il y a un peu comme dans l'architecture haussmannienne, des pierres d'attente. C'est ces moellons qui dépassent en attente de prochain immeuble, la prochaine construction, et qui restent pendant un moment suspendus. Et donc, il y a dans ces livres des petites... Enfin, dès le premier, dans Pura Vida, il y a par exemple l'assassinat du Cubain Julio Antonio Mella au bras de Tina Modotti par les staliniens à Mexico, dans les années 30. Ça figure dans Pura Vida, mais de manière... Voilà, c'est juste une petite phrase. Mais je sais déjà que... Et donc, en l'occurrence, c'est 10 ans après... J'allais écrire Viva, le livre mexicain, dans lequel là je détaille cet assassinat, les responsabilités respectives en jeu. Voilà, donc il y a beaucoup de petites accroches comme cela, enfin, qui m'aident aussi à travailler, à continuer, à construire.
Tout à l'heure, quand on a insisté sur la dimension du projet littéraire et que je, comme ça, formulais l'hypothèse qu'il s'agissait peut-être aussi ou surtout d'un projet de vie, je me demande comment est-ce que vous vous déplaceriez, comment tout ça aurait lieu s'il n'y avait pas les carnets. Est-ce que ça aurait lieu? Est-ce que vous voyageriez autant? Est-ce que vous prendriez les mêmes chemins si vous n'étiez pas en train de faire, comme vous le dites vous-même, de consigner le monde et les vies dans vos carnets?
Oui, non, bien sûr, je ne fais que cela. Donc c'est pour ça que, de la même manière, même s'il y a des chapitres qui peuvent ressortir de livre en livre à de l'autobiographie, ça n'est pas réellement de l'autobiographie, puisque cette vie que je mène, je ne la mènerais pas si je n'écrivais pas ce livre. Donc c'est la poule et l'œuf.
C'est la vie que vous racontez, la vie nécessaire pour le livre.
Et absolument.
D'ailleurs, du reste, nous ne savons rien du reste. Dans les dimensions autobiographiques des textes, rien n'est décrit d'autre chose que la vie nécessaire pour être en train d'écrire ce livre.
Oui, alors il n'empêche que dans Tabataba, qui est le français, évidemment, je reprends tout de même, bien sûr, depuis mon enfance, mais parce que c'est le français. Et puis parce que j'avais construit le livre en faisant un tour de la France au volant pendant 2 ans, à partir de vieilles adresses familiales retrouvées dans des archives. Mais c'était aussi le mode opératoire, en quelque sorte.
Du déplacement nécessaire.
Oui, bien sûr.
Pour justement continuer de parler des vies, on va écouter Jean Starobinski évoquer Montaigne.
Lire Montaigne est une expérience très passionnante et stimulante, parce que Montaigne apparaît au premier abord, et beaucoup de ses lecteurs l'ont dit, comme l'écrivain qu'on peut ouvrir à peu près n'importe où. En fait, oui, on peut isoler dans Montaigne telle déclaration, telle affirmation, et considérer que Montaigne dit cela. Seulement, quand on y revient, on s'aperçoit que Montaigne est un homme beaucoup plus rusé à certains égards. Tout se compose finalement d'une manière très subtile, sans point d'arrivée définitif, mais avec tout de même une thèse, une antithèse et quelquefois une tierce solution. Il aime les démarches à 3 temps. Et il ne faut pas s'arrêter à l'un de ces temps, il faut voir le mouvement précisément. Et je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment, je n'ai peut-être pas fait suffisante aussi la part qu'il faudrait attribuer au voyage, le très joli journal de voyage dont j'ai peu parlé, mais qui montre Montaigne attentif aux coutumes, aux usages, aux arts de la table de la Suisse, de l'Italie. Il va voir à Rome exécuter un bandit ou circoncire un enfant dans un quartier juif. Il est curieux de la manière dont les hommes vivent.
J'entendais la pluie frapper les parois de la cabine. Plus vieux de 10 ans, allongé sur ma couchette à bord de la jangada, je tendais la main et attrapais Montaigne. Ce grand livre décousu des essais avait installé en Europe la pensée humaniste, et il me semblait que nous vivions la disparition de celle-ci, la fin du rêve égalitaire devant l'explosion démographique, la raréfaction des ressources, l'apparition d'une humanité augmentée, laissant les milliards de sous-hommes s'entretuer pour un peu de nourriture et d'eau potable au milieu des décharges. Contrairement à mon père, à son père et au père de celui-ci, ma vie n'avait pas été bouleversée par les guerres en Europe. J'espérais que Pierre pourrait écrire la même phrase. Mon optimisme était chancelant. De loin en loin, il posait son livre ou fermait son carnet, sortait gommes et crayons reprenait le dessin. Des paysages ou des insectes. Des cargos. Un matin, il m'avait laissé seul avec Montaigne sur une plage déserte envahie de mouches pour aller escalader une colline en compagnie d'un Allemand de nationalité brésilienne, ancien des commandos de la jungle. Alors qu'il marchait jusqu'au canot, Pierre avait fait demi-tour, m'avait apporté une cape de pluie. Ma lecture était perturbée par l'inquiétude d'être ainsi abandonné. L'île était éphémère, isolée en cette période des hautes eaux. J'imaginais pouvoir retrouver le banc de sable en tâtant du pied, craignant rétorpilles et candirus, rejoindre la terre ferme, de l'eau jusqu'à la poitrine et le volumineux exemplaire de l'édition Quarto au-dessus de ma tête, tenu à deux mains, comme une arme qu'on préserve. Il n'avait pas plu. Pierre était revenu.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Patrick Deville.
Ça veut dire, Patrick Deville, que même dans une situation fort délicate, si vous aviez à conserver quelque chose, ce serait le Quarto de Montaigne sur la tête, même dans un abandon. Romain de Bec de Lièvre lit un extrait d'Amazonia, et juste avant, c'était une archive de Jean Starobinski, 1983, sur les essais de Michel Montaigne. Alors on disait que Blaise Cendrars avait une place singulière, Montaigne aussi a une place singulière. Peut-être qu'on peut essayer de dire... Tout à l'heure, on essayait de décrire la manière dont vous viviez vos journées de navigation et de vie pendant ce voyage. De dire à quoi ressemble cette bibliothèque tant, au fur et à mesure de la lecture, on a l'impression qu'on y prend place, nous. Et que c'est aussi ce fleuve-là que j'essayais de décrire en introduction, Patrick Deville, dont il est question. Le fleuve qui relie celles et ceux qui écrivent à celles et ceux qui les lisent.
Il y a dans tous ces livres ma bibliothèque idéale, enfin celle que je lis, relis, et je sais parfaitement qui n'entrera jamais dans ces livres, par exemple. Justement, je ne dirai pas de nom. Mais
qui n'entrera jamais dans la bibliothèque.
Voilà, c'est ça.
Ah oui, vous savez plus ça que et qui y entrerait.
Si, bien sûr. Et après, évidemment, tout dépend des livres. Il y a des lectures que je reprends, enfin nous parlions de Cendrars, mais Montaigne n'était quasiment pas apparu encore dans ses livres, pas même dans le français, parce que le français, comme c'est tout de même sur plutôt sur un siècle et demi, enfin la ligne que j'avais suivie, c'était plutôt Chateaubriand, Hugo, Proust, avec Michelet, Quinet, bon jusqu'à Modiano, voilà pour prendre des hommages. Mais là, évidemment, le Montaigne, j'avais prévu pour cette accroche de l'Amérique latine, parce qu'il y a plusieurs passages, des essais très intéressants sur l'Amérique latine. Enfin, d'abord, il y a cette rencontre véritable de Montaigne avec les trois Indiens du Brésil, trois Indiens toupis ramenés. En Normandie au XVIe siècle que Montaigne rencontre. Ensuite, il y a la longue fréquentation de Montaigne avec un homme qui a vécu longtemps, qui était un homme de l'expédition de Villegagnon, l'amiral de Bretagne, pour créer cette colonie française, enfin la rivière de Janvier, qui est devenue finalement Rio de Janeiro. Et puis ensuite, il y a... Mais alors vous parliez aussi des titres, des petits titres de chapitres, et bien ça renvoie à Starobinski, qui évidemment, Starobinski est un immense lecteur et critique, etc. Il a raison de dire que, ce qui est un peu le contraire, parce que dans ce qu'on vient de lire, je dis que c'est décousu, mais c'est tout de même très décousu les essais. Mais par contre, il faut en effet faire l'effort de les lire, ces essais, de la première à la dernière page et dans l'ordre. Et alors il y a ces titres, en effet, souvent un peu farfelu, parce que le chapitre dans lequel il raconte l'histoire de Pissarro et la mort de l'Inca, Atahualpa, c'est dans un chapitre intitulé « Décoche ». C'est-à-dire les voitures, quoi. Enfin, y a apparemment rien à voir. Enfin, mais cette construction est très... Enfin, en même temps, ça n'est pas complètement volontaire du point de vue de Montaigne, parce que l'écriture du livre elle-même a été très, très complexe, très, très remaniée. Mais j'aime beaucoup lire les œuvres intégrales. Là, je ne suis pas en train de me faire de... Je ne suis pas non plus en train de dire qu'il faut absolument lire tout de manière posthume. Je me réjouis d'avoir des lecteurs vivants, mais il n'empêche que...
Pourquoi ? Parce que vous avez l'impression de pouvoir avoir une vision dans la complétude de la trajectoire.
Oui, et de la première à la dernière page. Que lire les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, extrêmement long, mais il faut les lire tranquillement et de la première à la dernière page et pas extraire, enfin, comme on le fait souvent avec Montaigne, avec les essais, ou même avec la recherche, par exemple. Enfin, même si la recherche, c'est pas si long que ça, hein. Enfin, tout le monde, enfin, je sais pas, c'est, d'abord, il n'a pas écrit ça, c'est pas si long que ça, il a fait
la
ça en 9 ans.
La recherche perdu de Proust,
oui.
Donc.
Il fait ça en 9 ans, enfin, c'est pas très long, quoi. Ça peut être lu et relu, mais il faut le lire dans l'ordre et pas aller chercher des fragments.
Ça me fait penser, Patrick Deville, ce que vous dites de la première à la dernière page, à la manière dont, on reviendra peut-être à la question de la pensée humaniste dont il était question dans l'extrait que vient de lire Romain de Bec-de-Lièvre, mais à la manière dont aussi beaucoup de ces livres de ce projet Abracadabra se demandent qu'est-ce que c'est qu'une vie ? Qu'est-ce que c'est qu'une vie qui passe ? Comment on peut la consigner ? Comment on peut la raconter ? Est-ce que ça existe ? Je ne sais plus dans lequel de vos ouvrages, mais il y a un des personnages, une des personnes que vous rencontrez, un homme qui vous dit « mais une vie, ça n'existe pas ». Et comme si finalement, vous disiez tout à l'heure, en fait, c'est un projet qui ne cesse de s'étonner d'être vivant, et celui-là, j'ai l'impression de manière encore plus littérale, comme si là, une des autres grandes questions, c'était « mais c'est quoi une vie d'humain, en fait ?»
Oui, et comment la mener ?
Et comment la mener ? Et à quoi ça ressemble, de la première à la dernière page, de la première heure à la dernière heure ?
Et c'est tout de même la question que chacun d'entre nous se pose tous les matins, ou enfin je l'espère.
Quand il a le luxe de le faire.
Voilà, je l'espère. Oui, qu'est-ce que vivre ? Quoi faire de cet étonnement extraordinaire d'être vivant ? Et parfois, en effet, et il y a tout de même des moments où on se dit, voilà, pour cela, je fais bien d'être vivant. Et oui, quant à cette remarque, c'est dans Equatoria, c'est un Camerounais
exactement.
Que je rencontre au Gabon et qui fait des affaires dans le poisson.
Celui qui gare son 4x4 dans les,
voilà,
dans les cafés boueux, là.
Et qui fait des affaires dans le poisson. Mais qui, justement, manifestement, avait des vies parallèles d'un côté et de l'autre de la frontière, vraisemblablement également des familles. En plus, c'est toute l'histoire aussi de l'Afrique et de la colonisation, puisque là, il était chez les Fang, qui sont de part et d'autre de la frontière, et lui était d'une autre ethnie, parce que toutes ces frontières coloniales africaines traversent des territoires qui ne respectent pas l'histoire, qui est connue, par contre, évidemment, des... Et lorsqu'il me disait cela, je sentais bien que c'était plutôt, de son point de vue, cette multiplicité possible des vies.
Ah, que une vie, ça n'existe pas.
Oui, voilà.
En fait, c'est l'invention de plein de vies possibles qui est la réalité.
Et que ce type n'avait manifestement pas du tout envie, par exemple, que je rassemble ces vies pour. Et j'ai fait cette remarque parce que physiquement, c'était une espèce de colosse et que il ressemblait à Jonas Savimbi, dont j'étais en train d'essayer de rassembler la vie.
Et qui vous disait, c'est une entreprise vaine, parce qu'en fait,
absolument.
Une vie, ça n'existe pas. Mais quand on pense à peste et choléra, c'est ça. Vous, en plus, avec une espèce d'écriture qui cavale comme ça, c'est comme si, dans un livre, comment on peut faire rentrer une vie d'humain ou d'humaine dans un livre ?
Oui, mais la très grande entreprise de la lecture, de la littérature... Nous lisons la littérature pour cela, pour essayer d'être un peu moins dans le brouillard s'agissant de notre propre existence.
C'est-à-dire, préciser ?
Eh bien, l'enseignement de voir les vies qui ont été vécues, qui ont été menées, alors bien, mal, brillamment, énormément enfin, je suis à la fois fasciné par les génies et les salauds.
Et d'ailleurs, il y a un texte qui est dédié aux héros comme aux traîtres, non? Quelque chose comme
oui,
ça.
Oui, justement, c'est l'Africain, parce qu'il y a Braza qui est un héros qui revient dans Amazonia avec, oui, par exemple, cette vie de Roger Casement, quoi, qui n'est pas, je crois, très connu en France, mais qui est un héros irlandais, qui est dans Joyce, qui est dans Ulysse. C'est l'histoire de cet aventurier magnifique qui ensuite devient le traître absolu puisqu'il négocie avec les Allemands pour que l'Irlande soit libérée par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale et qui finalement est pendu alors qu'il a été anobli par le roi. Et bon, c'est fascinant. Enfin,
ce virage-là, vous voulez dire, c'est fascinant?
Oui, puisque nous pouvons demain devenir... Enfin, tous les matins, nous avons la possibilité d'être un traître ou un héros.
Ce qui fait aussi à la fois référence à votre attention à l'humanisme et à une manière de mener bien sa vie, mais aussi à la manière dont vous regardez plus précisément la trahison des idéaux révolutionnaires, leur transformation, la manière dont on peut croire à un moment donné politiquement vouloir changer le monde ou faire table rase et puis se rendre compte que cette hypothèse-là a mené aux pires horreurs. Dans l'attention que vous portez aux choses et au monde, Patrick de Ville, c'est quelque chose qui est assez récurrent, cela. Comment on a cru à un moment donné à des choses, comment on n'y a plus cru, comment on s'est gouré.
Effectivement, alors là, mais c'est peut-être une question de génération. Nous n'avons pas le même âge. Moi, j'ai eu des rêves révolutionnaires dans les années 70, à un moment où nous pensions qu'en effet, la transformation du monde pouvait encore passer par la révolution, la prise d'armes, ce rêve. Et en effet, oui, je m'y suis beaucoup intéressé principalement au début de ce projet, parce que pour la vida, c'est sur la révolution sandiniste, il y a des révolutions magnifiques, la sandiniste le fut, que pendant ces 6 ans où j'étais beaucoup en Amérique centrale, j'ai rencontré, je suis toujours proche des sandinistes, enfin du Movimiento Renovador, hein, pas de ce cinglé de Daniel Ortega. Et donc, voilà, ces jeunes gens ont risqué leur vie, beaucoup sont morts, ils ont chassé la plus pourrie des dictatures, celle des Somoza, ils ont organisé des élections démocratiques, ils les ont perdues, ils ont remis les clés du pays à Violeta Chamorro du centre droit. Et après, j'ai suivi le procès des Khmer Rouges à Phnom Penh, puisque c'est au même moment. Enfin, la révolution sandiniste à Managua, c'est 79, les Khmer Rouges prennent le pouvoir en 75 à Phnom Penh, et le garde pendant 4 ans jusqu'en 79, et là, par contre, c'est l'horreur. Et une révolution complètement inspirée par les Lumières, qu'on a mis très longtemps à désanonymer ces gens, Pol Pot, Salotsar, Yeng Sari, etc., et on s'est aperçu que c'était des étudiants parisiens qui vivaient, qui avaient vécu rue Saint-André des Arts et qui avait découvert la pensée politique en étudiant les lettres en France et que ça peut mener au pire. Donc, mais ensuite il y a voilà cette révolution ciudadana de l'Équateur, donc voilà qui m'a aussi beaucoup intéressé. Maintenant, je crois que ça ne peut plus. Enfin voilà que le problème, la question ou la résolution du présent n'est plus du tout dans ce genre de d'action. Que c'est un moment qui est totalement terminé. Que ça doit être autre chose. C'est lié aussi peut-être voilà à l'état de la planète.
On dirait que père, mère, fils, frère, sœur devient presque des rôles à la Walt Disney maintenant. Hein, on est... Tout est schématisé, il suffit de regarder la publicité, il n'y a rien de plus exaspérant que cette publicité où les rôles et les fonctions de père, mère, fils, enfant, comme ça, sont surexaltés de façon comique, enfin vraiment c'est ridicule. Mmh. Tout ça cache quelque chose de... Enfin, un déni de la difficulté de ces fonctions-là et de ces rôles-là, de ces... C'est la définition la plus simple et la plus forte, effectivement, du messianisme biblique. C'est dans Ézéchiel et dans Jérémie, hein, de grands prophètes, et ça c'est repris dans les évangiles, sur les lèvres du Christ. C'est-à-dire, la définition la plus simple et la plus forte du messianisme, c'est voilà, de ramener le cœur des pères vers le cœur des fils. Mmh. On peut très bien imaginer comment on est en train de se progressivement de se débarrasser de ces je sais pas comment dire, de ces habits-là d'humanité. Voilà.
Au dîner, nous reprenions parfois ces histoires de père et de fils que je commençais à mettre en ordre, mais ne pouvais écrire sans voir ces lieux. Celle de Percy et Jack Fawcett, d'Edgar et Raymond Maufray, de Théodore et Kermit Roosevelt. Nous estimions le meilleur et le pire de cette curieuse relation père-fils. Le pire étant l'héritage, source d'injustice, qu'avec Pierre nous entendions bien abolir dès que nous aurions pris le pouvoir, et pour le meilleur, ce jeu fascinant des ressemblances et des différences, dans les expressions du visage, le timbre de la voix, puisque les chats, tout de même, ne font pas des chiens, c'est avéré. Pour avoir vu vieillir mon père, il ne me semblait pas si surprenant qu'un fils assiste à la décrépitude progressive et au chemin paternel vers la faiblesse. Comme si, par un jeu de vase communicant, quelque chose passait ainsi de l'un à l'autre. Je songeais que certains qui n'avaient pu assister à ce triste spectacle, Henry Morton Stanley ou Alexandre Yersin, s'étaient choisis des paires de substitution insurpassables. Livingstone pour l'un, Pasteur pour le second, dont ils avaient fait des symboles inhumains et qu'ils n'étaient finalement jamais devenus pères à leur tour.
Là aussi, de nombreux liens dans l'extrait que vient de lire Romain de Bec de Lièvre de votre texte Amazonia, Patrick Deville, avec vos livres précédents, notamment par l'appel à Yersin, mais surtout, peut-être une des questions, des autres questions centrales. C'est difficile de trouver un centre à vos livres, mais quand même, cette question d'affiliation, de qu'est-ce que c'est que d'être un fils d'un père mort, le père d'un fils vivant. On entendait Frédéric Boyer au micro de Alain Weinstein il y a 15 ans dire que les lignes étaient en train de bouger, que ces grands habits de l'humanité qui étaient l'habit du père et l'habit du fils, peut-être on était en train de les défaire. Qu'en est-il après la publication, au moment de la publication d'Amazonia? Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Deville?
Alors, d'un strict point de vue littéraire, écrivant des vies, beaucoup, Ce rapport-là des fils et des pères m'a beaucoup intéressé, d'un point de vue littéraire. Enfin, pour le père de Malcolm Lowry, Arthur Lowry, qui passe toujours pour le bourgeois méchant qui aurait brimé son fils, alors qu'en fait, manifestement, enfin, quand on lit la vie des deux, il y avait un amour et une attention extraordinaire de Arthur Lowry pour son fils Malcolm, qui étaient peut-être les fils préférés parce que les autres avaient trouvé la mangeoire. Enfin, ils étaient aussi dans les affaires, etc. Voilà. Et puis, il y avait ce génie égaré. Ou Kipling, quoi. Parce que tout de même, le fils de Rudyard Kipling, John Kipling, est mort à cause de ce poème. If, voilà, tu seras un homme, mon fils. Et alors qu'il voyait pas à 50 centimètres, il a absolument voulu faire la Première Guerre mondiale. Il est mort le premier jour. Et donc, c'est à la fois monstrueux et puis... Et puis fascinant ces histoires. Alors bon, ça concerne. Je ne connais rien aux histoires mère-fille. Je soupçonne bien tout de même par la lecture qu'également c'est fascinant, mais je serais incapable de d'écrire cela tout simplement parce que je ne l'ai pas vécu, parce que je ne le vis pas. Et là, après avoir écrit. C'est après que j'ai proposé à Pierre, parce que j'avais raconté tout cela dans Tabataba, mon père, son père, le père de son grand-père, machin, etc., jusqu'au Second Empire. J'ai proposé à Pierre, parce que le sujet m'intéressait, qui a un peu hésité, de continuer cette histoire de père et fils, avec cette interrogation, et je ne sais pas si c'est souhaitable, pas souhaitable, mais je mentionne dans le livre que tout cela sans doute est en train de disparaître et
de bouger, en tout cas de se transformer, peut-être de se réinventer.
Oui.
Il y a une des choses assez belles que, face à laquelle vous vous trouvez, Patrick Deville, dans le texte, c'est que vous dites, bon, j'ai proposé à Pierre en faisant l'hypothèse que c'était l'homme qui me connaissait le mieux. Et puis le voyant dessiner, écrire et fermer mystérieusement ses carnets, vous vous dites, il y a bien quelque chose qui m'échappe profondément dans ce qu'il est, dans ce que seront peut-être un jour ses dessins ou ses textes. Oui. L'histoire du temps, quoi, qui passe.
Oui. Non, mais heureusement, enfin, il y a ce secret. Non, mais bon, comment c'est assez léger et drôle. Enfin, je l'essaie. Enfin, ça peut paraître, mais enfin, tout ça est. J'écrivais cette remarque tout de même qu'en effet, quand le premier à prendre des notes, enfin le premier qui sut écrire tout simplement, qui connut l'alphabet de l'expédition Orellana au XVIe siècle, qui descend le fleuve pour la première fois, c'est ce père dominicain, Carvajal, qui en fait le récit. Et c'est lui qui baptise, au sens propre, ce fleuve Amazon, et donc l'Amazonie, c'est à lui que nous devons ce nom. Et il ne ment pas, Carvajal. Il est au XVIe siècle, il voit des femmes guerrières musculeuses tirées à l'arc sur les navires de Orellana, et donc ce sont des Amazones. Il n'invente pas, il ne dit pas. S'il écrit que ce sont des Amazones, c'est parce qu'il a vu des Amazones. Et je mentionnais dans Amazonia qu'effectivement, peut-être que plus tard, ces histoires de père-fils, il faudra aussi une note en bas de page, en disant que tout cela fera, il faudra expliquer qu'il y eut des pères et des fils biologiques, en exégèse, dans les futures éditions de la Pléiade avec.
On vous rappelle qu'un père c'était ça et qu'un fils c'était ça, à l'époque, dans l'ancien temps.
Oui.
Toujours est-il qu'à la fin du livre, c'est une des raisons qui vous donne bonne raison d'être vivant, la présence de ce fils. Merci beaucoup Patrick Deville, Amazonia est paru aux éditions du Seuil, on peut donc le lire. Et puis quand même manifestement, le cours de notre conversation dit qu'il faut lire tous les autres.
Ah, écoutez, merci Marie Richeux.
À la prise de son, c'était Pierre Monteil. Ce soir, à la réalisation, Lise-Marie Barré. Et par les temps qui courent, c'est aussi Jeanne Aléos, Romain de Bec-de-Lièvre, Marianne Chassor et Lucie Riandet. On est ravis de vous retrouver en cette rentrée. Du coup, on vous dit tout de suite, à demain ou quand vous voulez sur l'appli Radio France et franceculture.fr. Si tu amor fue flor de un día, ¿y por qué causa siempre es mía esta cruel preocupación? Quiero con los dos un copa alzar para pagar mi oscilación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a tu lado pronto, pronto te hablará de amor. Y hermano, que yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me abandoneó tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola
estoy triste en esta noche, noche negra y sin estrella. Si las copas traen consuelo, pero aquí estoy con mi desvelo para ahogarla de una vez. Quiero con los dos mi copa alzar para apagar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración y angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a tu lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano, que yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Veré caer las rosas muertas de mi juventud.